Je faisais comme ma maman, et comme je trouve ça génial en espagnol, au lieu d'écrire photo en français comme ça, parce que, hein, on est à l'école normale, il faut écrire correctement quand même. Mais regardez, les Espagnols, ils écrivent ça comme ça, photo. C'est génial. C'est tellement plus près de la nature. Si la parole, c'est la nature, et que la parole, ça doit se retrouver dans l'écriture, comme une écriture sténographique, justement, hein. C'est complètement abrutissant, cette théorie. Mais ça vous fait des gens qui vont donc mettre la parole qui recouvre l'écriture. Ça, c'est le côté maman, vous voyez. Bon, côté papa, c'est le contraire. C'est, je suis lettré, alors je pense. Regardez les profs de grammaire, regardez, quand moi je pense les mots espagnols, je les pense écrits, j'ai un mal fou à rentrer dans le système phonologique des Argentins de Buenos Aires, qui ne parlent pas de la même manière que les Espagnols de Madrid. Vous comprenez? Tous ces trucs-là. Le par-lettre, c'est quoi? C'est justement mettre la parole pour cacher la lettre, hein, ou bien mettre la lettre pour cacher la parole. Et vous avez plein de traités de grammaire ou de même de philologie, où vous avez des gens qui sont des lettrés, hein, et qui vous balancent des théories et des doctrines qui supposent que la voix, ça n'existe pas. La musique, ça n'existe pas dans la langue, vous voyez, le système phonologique, sous son aspect phonologique. Oui.
Est-ce que vous avez entendu parler de l'américaine qui a essayé d'apprendre un Nori à parler en Galicie?
Oui, alors là, il y en a des tonnes, mais il y en a une avec le gorille. On a fait d'autres essais. Il n'y a pas deux semaines, quelqu'un m'a parlé encore d'une autre expérience qui est parue dans le journal à Buenos Aires. Donc c'est fréquent. Mais vous voyez, c'est un déficit de lecture, d'analyse, vous voyez, qui produit ce genre de tentative. Moi je connais même, j'ai écouté, le jour où Lacan a commencé à parler du stade du miroir, quelques années après, vous voyez, dans toutes les écoles maternelles, vous avez vu apparaître des miroirs dans les classes d'école maternelle, on se demande pas si les petits allaient les faire muter plus vite. Bon, on mettait des miroirs partout. Et j'ai même vu chez quelqu'un, un ami, mais là je pense que c'était assez ironique, il avait même mis un miroir dans la cage de ses canaris, en attendant que peut-être il se mette à devenir narcissique. Vous voyez, sujet.
J'ai un chat, j'essaie de la faire mettre devant le miroir, mais
elle ne regarde pas. Elle se méfie. Non, mais la gandille, les animaux, on peut les névroser sur une distance, mais ça ne se répercute pas. C'est le chien de Pavlov. Il prend l'exemple de Pavlov. La substitution d'une assiette, n'est-ce pas, d'une sonnerie à l'assiette, ça va être effectivement une connexion signifiante, hein, de phonologie. Mais le problème, c'est qu'elle ne se répercute pas, alors que chez l'enfant, ça part en cascade. Oui, il y a l'expérimentateur. Le sujet, c'était Pavlov, et puis ça s'arrête là. On peut les névrotiser, là, quand on les appelle domestiques. C'est des animaux d'hommes, domestiques. Bon. Mais ça va pas plus loin. Maintenant, écoutez, faire naître un enfant humain dans une période de gestation qui a plus de 9 mois, ce qui fait qu'il ne serait pas prématuré, ça n'a aucun intérêt. On pourrait imaginer ça, puisque nous sommes des prématurés. Un médecin fou peut très bien décider de dire, voilà, on va en finir, comme il y a des tas de gens qui veulent faire ça aujourd'hui, on va en finir avec le langage. Puisqu'on a utilisé le langage pour surmonter notre prématuration de mammifère, hein, si on arrive à sans que le cordon se nécrose, sans que que l'utérus se détériore, si l'enfant, on arrive à le porter au-delà de 9 mois, à 12 mois, à 15 mois, je ne sais pas s'il faudra 20 mois, mais pour finalement avoir un enfant qui va n'être pas prématuré, comme les petits chevaux, vous savez, ils tombent du ventre de la mer, ils se mettent à cavaler dans le champ. Bon, et bien vous ferez un monstre. Vous ferez un monstre, c'est tout. Vous allez, parce que ce qu'il faut dire, c'est pas divin, c'est pas naturel, c'est il se trouve que vous avez un mammifère qui est prématuré, inviable, il aurait dû crever, il n'a pas crevé, il s'est mis à galoper avec le langage. Il est pollué, mais en même temps, c'est son poumon d'acier. Incorporation, par exemple, il thématise en incorporation. Donc vous voyez que c'est nous, ça. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas de changer ça. Le problème, ce serait de nous rendre compte de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. C'est ça le plus important. C'est qu'est-ce que nous faisons et quelle est notre position de sujet dans cette histoire. Hein? Moi, je pense qu'il n'y a pas de circonstance atténuante. Il n'y a pas de mauvaise technique, mais le problème, c'est qu'il faut s'en occuper.
Juste un jeu de mots au sujet des 20 mois, c'est très polysémique.
à propos de
20 ans. Hein.
Oui, oui, oui.
On peut en faire un.
Oui, 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 oui. Oui, moi, vous savez, je parle toujours du siècle 20. Je trouve que c'est un siècle absolument déplorable.
Oui.
Oui.
Je reviens sur ma langue. Sur la langue. Deux secondes. Si vous écrasez des betteraves,
oui,
vous allez avoir de la mélasse.
Oui.
Et si vous savez lire, c'est-à-dire si vous savez utiliser des moyens scientifiques, vous allez en extraire la structure du saccharose.
Oui.
Donc que de la langue, qui sont faits par toutes les betteraves humaines que nous sommes,
oui,
on puisse extraire la structure du langage.
Non, c'est pas un procédé scientifique. Je ne suis pas de votre avis. Je vais vous dire, moi je vais vous proposer la chose suivante. C'est que je vous propose, c'est une question de définition. Bon, il y a du langage, pourquoi? Parce que nous pouvons constater qu'il y a des langues, il y a des codes.
Attendez, le langage n'existe pas.
Moi je dis qu'il y a du langage parce qu'il y a des langues, et je ne confonds pas le langage avec les langues. Et c'est pour ça que je suis de l'avis qu'il faudrait abandonner cette habitude que Lacan a adoptée de parler d'une inconscient structuré comme un langage, c'est-à-dire. Il le dit lui-même, il a utilisé le comme un langage parce qu'il y a commun, et ça lui plaisait beaucoup que ce soit un langage commun. Bon, et c'est ce qu'il dit, ça, là, quand il explique à un moment donné, il dit ça. Bon, il explique son commun. Bon, mais la conscience, il est structuré comme un langage, non, comme un discours, si vous voulez, ou comme c'est le discours de l'autre. Il est structuré comme une langue, si vous voulez. Mais le problème, c'est qu'il y a la langue, qu'est-ce que c'est? La langue, qu'est-ce que c'est? Une langue, c'est un objet qui est justement dont nous pouvons parler parce qu'il y a du langage. Et oui, mais qu'est-ce que c'est qu'une langue? Une langue, c'est une langue qui est parlée et qui est écrite. Et c'est deux langues différentes qui sont la même.
Mais
et
moi, ma mélasse, c'est sucré. Mais il faut en extraire le jus.
Non, mais vous avez dit dans votre argumentation que vous parliez, n'est-ce pas, du fait que cette langue, que nous sommes la mélasse et nous faisons cette langue. Moi, je veux que vous disiez ce langage.
Avec notre jouissance.
Non, attendez. Non, mais ça, c'est pour là. N'allez pas si vite. Ça, c'est pas. Ensuite, on va vous la reprocher, la puissance. Non, non, non. Le problème, il est que il y a du langage, il y a des langues. Les langues, elles peuvent être parlées ou écrites. Le langage, tout ce qui touche langage, c'est toujours la différence et l'identité. La différence et la répétition. Voilà la différence qu'il y a entre Freud et les autres. C'est que pour les uns, c'est l'identité, pour les autres, c'est la répétition. Bon. C'est-à-dire que retrouver ce qui est la marque effacée qui va revenir. C'est ça ce que la bon, l'effacement de la marque. Mais là, il passe du côté de l'écrit. Bon. Attention, je vous propose la chose suivante. Chaque génération, hein, c'est pas ce totem et tabou que je vais vous raconter, chaque génération, pour apprendre sa langue, a besoin de la réinventer. Et du même coup, elle invente une nouvelle écriture, une nouvelle littérature, une nouvelle musique, une nouvelle peinture. Chaque génération, parce qu'on ne peut apprendre, ça c'est mon expérience de professeur, celui qui apprend, c'est celui qui enseigne. Et celui qui apprend, qui est l'élève, il faut qu'il se gourre, il faut qu'il se trompe, il faut qu'il rature, il faut qu'il recommence. C'est ça la tâche analysante. Hein. C'est dire des conneries pour se corriger. Oui. C'est pas parce qu'on croit qu'on a la liberté de dire des conneries. Il faut que la liberté soit totale pour qu'on s'aperçoive qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Quand est-ce qu'on va finir par enseigner ou les dire faire entendre dans la cité que la psychanalyse, qui compte le plus dans la psychanalyse, où on propose à quelqu'un de parler, effectivement, sans contrainte, sans réglementation, c'est ça le côté qui paraît dégueulasse à certains, mais c'est pas du tout parce que c'est la liberté. C'est parce que justement, c'est le moyen le plus radical dans le transfert de s'apercevoir qu'il y a des choses qu'on peut dire, on a dit à d'autres, mais qu'on va pas dire là, on voudrait le dire, on allait le dire et on le dit pas. Et qu'à ce moment-là, le sujet, s'il fait son boulot, analysant, hein, les mots, tout ce qui n'est pas dit, le silence est plus important que ce qui est dit dans l'analyse. Alors ça finira avec les curés déjà, ça. Ça sera plus la confession. Hein. Venir nous casser les couilles pendant des mois et des semaines à nous raconter l'histoire de la famille, les rhumes des enfants, le mari qui a envie d'aller avec une autre femme et tout ça, bah, écoutez, c'est pas de la psychanalyse, ça s'appelle de la psychothérapie. Bon. Et Lacan, il posait la question à Strasbourg, pourquoi toutes les psychanalyses se transforment en psychothérapie? C'était même plutôt la question de Boer. Et Lacan lui le reprend juste sur un point en disant la question, c'est pas seulement de dire toutes les psychanalyses se transforment en psychothérapie. Lacan, il ajoute et dit est-ce que c'est nécessaire ou pas? Voilà la question que pose Lacan. Au séminaire de Strasbourg, 68. Aujourd'hui, c'est urgent de relire ce séminaire, ce colloque de Strasbourg. Congrès de l'école freudienne à Strasbourg, le titre c'était Psychanalyse et psychothérapie. c'est quand même, écoutez, je trouve que c'est pas moi qui dis que toutes les psychanalyses se transforment en psychothérapie. C'est Boer et Lacan le reprend en lui disant, mais c'est tout à fait ça le problème c'est pas seulement de le reconnaître, c'est aussi, est-ce que c'est nécessaire ou pas, est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas faire de psychanalyse? C'est ça la question. Bon, en tant qu'analysant, vous comprenez, pas en tant qu'être analysé par quelqu'un, non. Bon, alors moi je prétends qu'il y a moyen de faire ça, mais que c'est quelque chose qui nécessite qu'on en parle. Si on l'occulte, si on ne reconnaît pas le problème, on ne le résoudra jamais. C'est élémentaire, non? On ne peut pas résoudre un problème qu'on essaie de faire passer sous la table. Bon, alors les mecs, ils ont là clinique, politique, jouissance, morale, pas bien, bien, tout ça. Non, écoutez, c'est pas sérieux. Je suis désolé, je suis vieux maintenant, alors moi, vous savez, je m'en fous. Mais c'est pas sérieux. Non. Je dis ça, c'est pour l'avenir, c'est pour que. Et je veux dire que nous avons un devoir vis-à-vis des gens qui sont plus jeunes que nous. Il faut quand même pouvoir parler avec ses enfants. Moi, je vais dire à mon fils, ah oui, moi j'ai passé toute ma vie à faire l'escroc, à faire croire à des gens qui ont du pognon, qu'ils venaient pour me raconter leurs soucis personnels, et que c'était leur langue comme ça qui était en jeu, alors que leur langue maternelle ou intime, et non, c'est pas ça du tout, écoutez. Le problème, c'est que pour se poser la question psychanalytique de Freud, c'est qu'est-ce que c'est que lire, qu'est-ce que c'est parler, qu'est-ce que c'est qu'écrire, hein. Freud, il ne le pose pas aussi crûment, voyez-vous. Et je vous répète que si vous prenez le problème de l'OPA dont nous étions en train de discuter par l'autre bout, maintenant, on a tout compris parce que maintenant, Lacan est mort et on a toute son œuvre, d'accord. Et bien, qu'est-ce qu'on peut dire, notre petit A? Eh bien, ouvrez la critique de la raison pure de Kant. Au milieu, logique et dialectique transcendantale, c'est seconde section. Vous allez voir, c'est le milieu. Hein. Comment ça commence? La sensibilité fournie à l'intuition du sujet des objets. Hein. Vous voyez le mot objet, des objets. Et les objets pour Kant, c'est ce morceau de craie. C'est pour Alain, ça. C'est ce briquet, voilà. Vous voyez, ça, c'est des objets pour Kant, voilà, ma sensibilité fournie à mon intuition, des objets. Hein, bon. Et ces objets, mon entendement les conceptualise. Qu'est-ce que c'est les conceptualiser? C'est faire ça, les conceptualiser, c'est faire des ronds. Vous voyez? Je fais des ronds autour pour les mettre dans des concepts, des objets. Ça, c'est l'entendement. Bon. Chez Kant, il n'y a pas, parmi ces objets, un objet qui pourtant est un objet que ma sensibilité fournit à mon intuition. Ça s'appelle la lettre et le signifiant. C'est le phonème. Voyez-vous, je regarde ici le papier que j'ai sous les yeux, et là, je vois que c'est imprimé, et je suis désolé, je peux le lire en braille si je suis aveugle, mais il faut que ma sensibilité le fournisse à mon intuition. Mais mon entendement, quand j'ai affaire à des lettres, il ne fait pas de la conceptualisation. Il essaye de lire. Quand il entend aussi, écouter, c'est entendre. C'est écouter, c'est lire, vous comprenez?